toute une fin de semaine où tu as entendu parler ou encore tu as lu des histoires sur la pénurie de main-d'œuvre au Québec.
Oui. Puis Paul, il me reste trois chroniques, puis je me suis dit, profitons-en pour réfléchir à des enjeux peut-être un peu plus long terme. Là.
Mm-hmm.
Bon. Puis, effectivement, en fin de semaine, écoute, j'ai entendu parler de problèmes de recrutement de main-d'œuvre à gauche pas à droite, sans parler des histoires que j'ai lues dans les différents médias. Écoute, c'est honnêtement, Paul, tu as des entrepreneurs là, qui sont au désespoir. Ils ont plus de fun à être en affaires parce qu'ils n'arrivent pas, ils n'arrivent plus à trouver les employés dont ils ont besoin. Et dans certains cas, je te parle de petits commerçants ou de petites commerçantes qui en cherchent juste un, qui en cherchent juste une employée. Ils n'arrivent même pas à en trouver. Dans certains cas, je ne sais pas si tu as vu l'histoire, des employeurs qui publient des offres d'emploi, il n'y a personne qui soumet son CV. Pas un chat. Tu sais, tu dis, regarde, là, je venez-vous-en, là, j'ai de la job, là, puis tu fais de la publicité. Il n'y a pas un chat qui soumet son CV. Fait que là, écoute, la dernière mode, là, c'est les gros employeurs, par exemple, les grandes surfaces, dans des centres d'achat, qui envoient des maraudeurs auprès des petits commerçants pour...
Des chasseurs de tête.
Des chasseurs de tête qui vont voir les employés des petits commerces. Combien tu gagnes? Ben, je t'offre une pièce de plus. Viens travailler chez nous. Je te parle de grande surface. Je les nommerai pas, c'est pas nécessaire.
Mmh.
Je te donne une pièce de plus. Je te donne une pièce et demie de plus. Je te donne deux pièces de plus. Je te donne une pièce et demie de plus, puis tu vas avoir des rabais sur les achats que tu vas faire chez nous. Fait que ça oblige les petits commerçants, dans certains cas, à monter le salaire. Fait que mettons qu'il est payé au salaire minimum une 13,50, ben t'es monte à 15$. Fait que là, tu obliges la grande surface à offrir 16. Fait que t'as cette espèce de surenchère qui se produit. Tout ça pour dire, Paul, que ça pourra pas durer encore bien longtemps, cette affaire-là, là, sans qu'on ait une espèce de stratégie à moyen terme, je dirais, pour résorber la pénurie. Parce que, Paul...
Mais c'est pas tous des emplois qui demandent une grande formation. Là. Ce que je veux dire par là, c'est que j'imagine là, t'as un paquet de gens qui sont aptes à travailler puis qui travaillent pas puis qui ont pas l'air à vouloir travailler non plus.
Ah ben là.
Non, mais
c'est une vraie réalité. Ça, c'est un des sous-produits des programmes gouvernementaux de la pandémie.
Oui,
tu sais, ça c'est clair là.
Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y a des emplois qui demandent une formation puis que là, faut que tu fasses appel à des gens qui sont qualifiés, mais pas vrai dans tous les emplois. Là.
Ce dont je te parle, là, ça prend pas beaucoup de formation. Mais ce que j'allais te dire, c'est que ça peut pas durer encore bien longtemps. Il va falloir qu'on se donne un plan de match collectivement au Québec. Là. Puis ça se réglera pas demain matin, Paul, parce que la première raison pour laquelle on a un problème de pénurie, c'est parce qu'on a une population vieillissante. On s'entend-tu qu'on va pas renverser cette tendance-là avant quelques années? Là, t'sais? Alors, moi, je vais le dire comme ça, Paul, là, mais je pense qu'il va falloir à un moment donné que le gouvernement du Québec s'assoie avec les acteurs économiques, les milieux d'affaires, les milieux syndicaux, les secteurs communautaires également, et qu'on se donne une sorte de pacte social. Je vais l'appeler comme ça. Une stratégie à moyen long terme pour que les pénuries de main-d'œuvre se résorbent progressivement. J'insiste sur progressivement parce qu'encore une fois, le vieillissement de la population, on ne peut pas comme régler ça là, du jour au lendemain. Fait que il faut se donner un plan de match. Et puis, tu sais, je vous dis, c'est arrivé par le passé, on a fait des grands sommets, le grand sommet pour le déficit zéro, le grand sommet sur l'emploi du temps de René Lévesque, où tu assois autour d'une table tous les acteurs et là, tu dis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on se donne comme plan de match? Puis, Paul, oui, l'immigration doit faire partie de ce plan-là. Moi, je pense qu'il faut se donner des cibles, mettons, sur 5 ans, s'entendre. Voici les cibles sur 5 ans pour l'immigration. Mais ça ne peut pas être juste l'immigration, Paul. La solution ne peut pas passer juste par l'immigration. Il va falloir que les employeurs aussi, les entreprises, nous disent ce qu'elles sont prêtes à faire pour investir dans la modernisation de leurs usines, dans la modernisation des entreprises. Les employés sont durs à trouver. Assurons-nous qu'ils soient le plus productifs possible, qu'ils aient accès aux meilleurs outils, aux meilleures machines, aux meilleurs équipements, à la meilleure automatisation. Et donc, il faut que les programmes gouvernementaux s'enlignent vers ça. Paul, nos programmes gouvernementaux, puis Mia Hamzi, la PDG de l'Institut du Québec, avait un excellent texte la semaine passée là-dessus, où elle disait il faut réorienter les programmes gouvernementaux, Paul, parce que on les a créés dans un contexte où on voulait créer de l'emploi. Les programmes gouvernementaux sont axés sur la création d'emplois. Paul, on vit quasiment une situation de plein emploi au Québec présentement. Fait que les programmes gouvernementaux, il faut changer leur mission, puis aller probablement plus vers la formation. On donne de l'argent pour former tes employés pour qu'ils puissent justement travailler sur les nouvelles machines que tu es prêt à acheter, toi, l'entrepreneur. Parce que c'est trop facile de dire, Paul, moi, je veux de l'immigration. Faites rentrer du monde.
Non, mais.
Ouais, mais toi, tu fais quoi comme entrepreneur pour que ton usine soit top machinerie, top
Bernard,
équipement?
On va se le dire, là. Hein? Pourquoi on fait venir des travailleurs guatémaltèques, des fois, dans des conditions qui n'ont pas de sens, là? Parce que les Québécois ne veulent pas aller travailler dans les champs.
Bingo!
Bon, ben, tu sais, c'est pas là parce que. Pourquoi on se tourne vers l'immigration temporaire? C'est parce qu'on a un besoin urgent saisonnier, puis les Québécois ne veulent pas aller dans les champs. Parle à n'importe quel producteur agricole, il va te dire ça. Même affaire pour l'industrie forestière. Tu sais, t'as de la difficulté à recruter. Moi, je veux bien, là, mais si c'est pas des Québécois, ça va être qui? Parce que la main-d'œuvre, il faut que t'apprennes quelque part.
Alors, c'est pour ça que je te dis, l'immigration fait partie du portrait, fait partie de la solution, du pacte social dont je te parle. L'investissement puis la productivité aussi. Puis troisièmement, je rajouterais, Paul, la francisation, l'intégration de cette main-d'œuvre. Parce que, oui, je suis sensible à ça, puis je ne suis pas gêné de ça. On fait venir des nouveaux arrivants, oui. Il faut se donner aussi une stratégie pour qu'ils apprennent notre langue puis qu'ils s'intègrent à la société d'accueil. Et j'aime beaucoup la proposition de Ruba Gazal. J'ai lu ça ce matin dans le journal, Ruba Gazal de Québec solidaire, qui dit qu'il faudrait que les entreprises soient obligées, les entreprises d'une certaine taille, là, qui ont plus de 2 millions de masse salariale, là, qu'ils soient obligés d'investir 0,5% de leur masse salariale dans des cours de francisation sur les heures de travail. Comme on a déjà un programme qui oblige ces entreprises à mettre 1% dans la formation de la main-d'œuvre, tu sais, le fameux programme de 1%. Bon, ben, elle a dit qu'il devrait y avoir un 0,5 juste pour les cours de francisation sur les heures d'ouvrage. Parce que l'élément intégration, capacité d'intégration de notre société, ça aussi, c'est important. Mais, et puis là, je fais une petite parenthèse, Paul. C'est bien beau que les milieux d'affaires là disent à Legault, augmente tes cibles, augmente tes seuils d'immigration. C'est bien beau, ça. Mais peuvent-tu mettre un petit peu de pression sur Ottawa aussi pour qu'ils sortent les résidences permanentes? Paul, t'as 50 000 dossiers.
Ça,
Paul, t'as 50 000 dossiers. 50 000 personnes à qui le Québec a donné son certificat de sélection. Ils sont empilés à Ottawa, ces 50 000 personnes-là, puis ils attendent le papier du fédéral. Et sur les 50 000, t'en as entre 20 et 25 000 qui vivent déjà au Québec. Fait que je dis gentiment à Carl Blackburn, le président du Conseil du patronat, et les autres, mettez donc un peu de pression sur Ottawa aussi. Il n'y a pas juste Québec dans le portrait. Puis il y a des élections qui s'en viennent, belle occasion pour le faire. T'sais?
En parlant d'élections, là, t'es-tu en train de me dire, toi, que les stratèges libéraux n'ont pas laissé tomber pour l'été, là, qu'on pourrait peut-être même se retrouver en campagne électorale d'ici peu?
Ben, mais j'entends pas avant où.
OK, mais c'est
pas,
l'été, ça.
Mais je sais pas mal l'été, oui, oui. Oui, oui. Alors, je l'entends toujours, mais je veux rajouter un élément à votre réflexion. D'abord, quand vous parlez aux libéraux, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas les chiffres pour avoir une majorité présentement. Bon, ils savent. Puis, honnêtement, ils avaient espoir, avec le succès de la campagne de vaccination, que leurs chiffres allaient monter. Ils n'ont pas monté autant les chiffres qu'ils auraient souhaité. Parce qu'avec tous les sondages, tu regardes tous les sondages, là, puis tu regardes là, la pondération que fait Québec 125, là, Philippe Fournier, il leur en manque encore un petit peu aux libéraux, là, tu sais, pour être à l'aise puis dire on y va, là, puis on a une majorité avec les chiffres qu'on a. Ils n'ont pas de majorité avec les chiffres qu'ils ont. Mais ce qui est intéressant, puis c'est ça que je veux te soumettre, c'est que je parlais avec des libéraux en fin de semaine, puis la semaine passée. Puis ils m'ont soumis une autre façon de voir les choses. Ils m'ont dit, garde Bernard, c'est vrai qu'on les a pas les chiffres. Mais veux-tu qu'on attende que les conservateurs les aient, eux autres, les chiffres, que les conservateurs montent d'un sondage et qu'à ce moment-là, ils déposent une motion de non-confiance puis ils nous obligent à aller à l'élection? Nous autres, là, comment dire, je vous dis pas que c'est le seul, c'est pas le seul point de vue chez les libéraux, mais il y a des libéraux qui pensent de même, qui me disent, on ne veut pas donner les clés du char aux oppositions. On veut maîtriser notre destin. On veut pas qu'il nous arrive ce qui est arrivé à Paul Martin en 2006, quand il a été obligé d'aller en élection parce qu'il est tombé. Il y a eu une motion de non-confiance parce que les trois autres partis avaient intérêt à aller en élection.
Mais la question, est-ce que Trudeau est capable, même s'il n'y a pas les chiffres comme tu dis actuellement, en campagne électorale, d'aller chercher une majorité? Ben, c'est ça la question?
Tout à fait.
Faisons découvrir les conservateurs, puis faisons découvrir le Bloc, puis on devrait être capable de gagner. C'est un peu ça le raisonnement.
S'ils y vont, c'est exactement le calcul. Et là, ce que je comprends, ce que je suis en train de te soumettre, c'est qu'un des calculs qui circulent à Ottawa, c'est de dire, au pire, on reviendra minoritaire, mais ce sera nous qui aurons décidé d'aller en élection. Mmh. Faut pas attendre qu'ils décident pour nous autres, parce que s'ils décident pour nous autres, c'est parce qu'ils auront les chiffres pour nous battre. Et pour le moment, ils ne les ont pas. Je trouve ça intéressant. Fait que je te le soumets à ta réflexion, mon cher Paul Arcand.
Merci, mon cher Bernard.
Et on
c'est
se retrouve.
Comme on dit, c'est dans l'assiette publique.
Voilà, et on se retrouve demain.
Bien sûr. On vous écoute ce midi. 7h12, on va aller voir ce qui se passe là sur la 20.